Europe Soir, le 18-20, Jean-François Pérès.
Allez, à 19h15, on ouvre le Club des idées. Vous allez sans doute ce soir envoyer des messages, souhaiter joyeux Noël à vos proches, à vos amis, mais le ferez-vous en toute sécurité? Quels sont les risques que vous prenez, parfois sans même le savoir? Bref, peut-on maîtriser sa vie numérique dans un monde où les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon et autres, prennent de plus en plus de place, notamment grâce ou à cause de nos vies confinées, de plus en plus virtuelles? Dans le Club des idées ce soir, j'accueille Vincent Maillet, fondateur et directeur général d'Avas Commerce, auteur de Amazon, Main basse sur le futur, paru aux éditions Robert Laffont, en 2019. Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Grégoire Pouget, président cofondateur de l'association Nothing to Hide, rien à cacher en français, qui lutte pour la protection de l'information. Bonsoir Grégoire.
Bonsoir.
Et Alexandre Archambault, avocat, spécialiste des questions numériques. Vous intervenez régulièrement pour former et lutter contre la cybercriminalité. Bonsoir Alexandre.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Merci tous les trois d'être avec nous en direct sur Europe 1 en cette soirée de réveillon. Alors, avant de développer ces thèmes, messieurs, un témoignage. C'était il y a quelques jours, April Benayoum, Miss Provence, dauphine de Miss France, dit à la télévision que son père est d'origine israélienne. Tout de suite, un tombereau d'insultes et de menaces s'abat sur les réseaux sociaux et la jeune femme décide quelques heures plus tard de prendre la parole.
J'ai quand même été affectée par ce qui s'est dit. Je suis quand même choquée des propos qui ont été tenus. Ça ne m'était jamais arrivé. Dans mes élections précédentes qui ont été Miss Provence et Miss Pays d'Aix, c'est la première fois que je dois faire face à ce genre de propos. Alors j'ai décidé de porter plainte. Je n'ai pas pris d'avocat. Je pense que c'est aux autorités compétentes de faire le travail. Il ne faut pas que ça s'arrête là et il faut que on puisse sensibiliser encore les gens à ce genre de choses. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui me soutiennent encore. Merci pour tous vos messages, ça me fait vraiment chaud au cœur.
Voilà le témoignage d'April Benayoum. On a choisi ce témoignage parce que, bien sûr, c'était le plus proche de nous, temporellement parlant, mais c'est désormais, évidemment, et vous le savez, hélas, monnaie courante. Avez-vous été surpris par l'ampleur qu'a pris cette triste affaire, Grégoire Pouget? Peut-on encore être surpris par ce genre de choses aujourd'hui?
C'est toujours intolérable d'avoir ce genre de réaction, mais... Là, le problème, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas Internet. Le problème, c'est avant tout l'antisémitisme. Ce qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est que ça fait une caisse de résonance pour ce genre de propos. C'est pas, faut pas se tromper d'ennemi là. Et c'est pas Internet qui provoque ce genre de réaction. Ça, les réseaux sociaux malheureusement l'amplifient, mais faut pas oublier que Internet et les réseaux sociaux d'une manière générale, c'est juste un outil, c'est une pièce qui a deux faces, une face qui permet de communiquer avec des gens à l'autre bout du monde. Et en effet, parfois, malheureusement. Une face un peu plus sombre qui fait en sorte qu'on peut harceler quelqu'un en ligne malheureusement facilement.
Alors on va avoir le temps, hein, là on va exposer les faits, on aura le temps de parler des solutions éventuellement qu'on pourra proposer et je sais que vous en avez messieurs. Alexandre Archambault, ce phénomène évidemment n'est pas nouveau, mais l'exemple là dont on vient de parler nous le remet en pleine face, hélas.
Oui, hélas, et effectivement, je rejoins les propos précédents, c'est très révélateur de la société dans laquelle on vit, et j'ai envie de dire qu'effectivement, là-dessus, il ne faut pas se tromper d'adversaire sur ces sujets qui sont terribles, parce qu'effectivement, on a l'impression que parce que c'est numérique, c'est un peu comme la blague du café du commerce, alors que non, ce que l'exemple que nous rappelle April Benayoum, les victimes sont tout ce qu'il y a de plus réel, et les conséquences peuvent être dévastatrices. Simplement, c'est que, en la matière, la responsabilité, elle est partagée. On a effectivement un peu de tendance, parce que ce sont les plus visibles, et c'est eux qui fournissent l'outil aussi, d'incriminer effectivement les réseaux sociaux, mais il ne faut pas oublier que la responsabilité est avant tout la nôtre, nous autres utilisateurs. Est-ce qu'on doit se comporter sur les réseaux sociaux comme dans la vie numérique? Moi, j'ai plutôt tendance à dire, parce qu'il n'y a pas de vide juridique là-dedans, on doit se comporter dans sa vie numérique exactement que comme on doit se comporter dans la vie réelle. Donc, dit autrement, lorsqu'on abuse de la liberté d'expression, lorsque cela fait des dégâts, on doit en répondre devant un juge. Et ça tombe bien, le droit est outillé pour cela depuis, en tout cas en France, depuis bientôt 16 ans. un peu plus de 16 ans.
On va en parler tout à l'heure. Je voulais juste avec vous, Vincent Maillet, peut-être revenir sur cette idée de parler de façon numérique comme on parle dans la rue. La violence verbale est de plus en plus décomplexée sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que la société, elle aussi, est de plus en plus vulgaire?
Oui, je sais pas si la société est de plus en plus vulgaire. Je pense que le numérique, en fait, et les réseaux sociaux au sens large, mais voilà, la vie digitale est le reflet de la société, et malheureusement avec les points positifs et surtout les points négatifs. Donc je pense qu'effectivement le droit, faut pas se dire que le fait que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le numérique, enlève ou peut protéger les personnes qui commettent ce genre d'exactions. Je pense qu'il faut qu'elles sachent qu'elles prennent des risques, voilà, et qu'elles peuvent se retrouver demain devant un juge. Et je trouve ça assez sain. Donc voilà, la meilleure façon, je pense, de réguler ce genre de comportement et de réguler les réseaux sociaux, c'est bien entendu de la prévention, de l'explication, de la pédagogie. Je pense qu'il y a des choses qui sont faites dans les écoles qui sont pas trop mal d'ailleurs de ce point de vue-là. Et puis de l'autre, ne pas hésiter à aller devant les tribunaux, à faire appel à des avocats, à solliciter un juge et à mener les démarches pour juguler et arrêter ce genre de comportement. Voilà, je pense que c'est. Je pense que. Finalement, les réseaux sociaux ont été peut-être aussi peut-être trop longtemps un endroit un peu trop ouvert où chacun pouvait s'exprimer derrière son pseudo. Et je pense qu'il faut un peu sortir de ça. Je dirais pas que je suis assez positif sur la suite, mais ce genre d'événements, je pense, à terme, vont peut-être pas disparaître, mais on en aura de moins en moins. En tout cas, c'est à souhaiter.
Grégoire Pouget, je crois que c'est vous qui parliez tout à l'heure de l'antisémitisme, en fait, qui était la cause première de cette affaire. On l'avait peut-être un peu oublié cette année, l'antisémitisme. On a été tellement pris par, hélas, hein, d'autres événements de l'actualité, le confinement, le terrorisme. Pourtant, c'est une bête immonde, comme on l'appelait avant, qui semble toujours tapie quelque part, hein, dans notre pays.
Oui, et l'antisémitisme, ça existe depuis bien plus longtemps que Internet n'existe. Donc, encore une fois, faut pas se tromper d'ennemi.
Et vous pensez que c'est un phénomène qui potentiellement peut être en croissance dans les mois ou les années qui viennent, justement parce qu'il trouve une source facile de propagation avec les réseaux sociaux?
Alors, je reprendrai ce qui a été dit précédemment. On a trop tendance, en effet, derrière un écran, à se comporter, à se croire intouchable. Les gens ne sont pas mauvais en soi. Il y a un vrai problème d'éducation à l'utilisation du numérique. Ce qu'il faut faire, et ça rejoint un peu le problème de l'antisémitisme, le problème, ce n'est pas Internet, le problème, c'est les usages qu'on en fait et l'éducation. Il faut qu'on éduque, il faut éduquer les gens. Il y a plein d'initiatives très intéressantes et très constructives qui sont faites, notamment à l'école. Cette année, je crois que c'est en 2020, il y a un CAPES sur les usages du numérique qui a été créé. Il y a le CLIMI qui fait beaucoup de choses. Nous, Nothing to Hide, on fait également beaucoup d'ateliers sur la littératie numérique, sur le fait de prendre conscience que quand on est derrière un écran, on peut faire autant de mal que lorsqu'on parle en face à face. On fait des ateliers sur justement le harcèlement. Et encore une fois, je pense que la vraie solution à ces problèmes-là, qui est illustré avec la soirée Miss France de la semaine dernière, c'est l'éducation. Il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas d'outil technique, il n'y a pas de loi magique. C'est un problème de société. Un problème de société, on met du temps à le résoudre. Et comment on le résout? Avec de l'éducation.
Alors justement, essayons de faire peut-être un petit peu de pédagogie avec vous, Alexandre Archambault. Ce soir, c'est Noël. Beaucoup de Français vont recevoir sous le sapin de nouveaux joujoux numériques, que ce soit des ordinateurs, des smartphones ou tout autre moyen de communiquer avec les moyens contemporains. De quoi faut-il se méfier avant tout quand on arrive dans ce monde numérique, ou qu'on arrive dans un monde numérique qui est en pleine évolution encore aujourd'hui?
Eh bien, moi, j'ai envie de dire, effectivement, ce que vous dites, c'est très, très pertinent, parce que ce soir, effectivement, beaucoup de primo-accédants, et ça va être des enfants qui vont recevoir un smartphone ou un ordinateur ou une nouvelle console, qui vont leur permettre, effectivement, c'est formidable, d'avoir une ouverture sur le monde, mais également aussi d'une exposition à des risques. Et là-dessus, j'ai envie de dire aux parents, Parlez de tous ces sujets-là avec vos enfants. Vos enfants ne sont pas en sucre et acceptez-les de les voir grandir. Nous, ce qu'on voit lorsqu'on intervient dans les collèges pour les sensibiliser sur ces problématiques-là, on est frappé, c'est-à-dire que l'équipement en numérique chez les enfants a fait des bons. Et quand on discute avec les enfants, les collégiens, on leur dit « mais est-ce que vous avez discuté de ces sujets-là avec vos parents ?» La plupart nous disent non, et ça, c'est véritablement terrifiant. Alors peut-être aussi parce que les parents ne sont peut-être pas très à l'aise avec ça. Hein. Rappelez-vous, nos parents étaient émerveillés parce qu'on savait faire fonctionner le magnétoscope sans lire la notice. Mais eux, effectivement, ils sont nés avec ça. Ça fait partie de leur quotidien et donc c'est un sujet, avant tout, qu'on doit pouvoir évoquer en famille. Parce qu'il y a des bons comportements et des bonnes pratiques à adopter. Et si on ne le fait pas, surtout à cet âge-là, vous avez la pression du groupe, de la meute, et on peut très vite arriver sur des comportements qui individuellement peut-être ne passer sous les camps du radar, mais sous l'effet de la meute, deviennent très nocifs. On l'a vu pas plus tard que la semaine dernière, puisque dans le cas de Miss France, puisque la plupart de ceux qui ont agonie d'ajure sont pour la plupart des mineurs. Mmh. Et c'est effectivement, on a un problème d'acculturation à l'usage des outils numériques, et il faut absolument que les parents discutent de ces sujets-là avec les enfants, parce que sinon, c'est une grenade dégoupillée qui vont leur filer dans les mains.
Vincent Maillet, l'éducation numérique par la famille, c'est quelque chose qui vous paraît pertinent ?
Ah oui, bon, ça c'est. Mais comme tout principe éducatif, je pense que le numérique fait partie de l'éducation au sens large, encore plus aujourd'hui, vu l'usage qui est fait du numérique. Mais alors, moi, d'un point de vue pédagogique, j'interviens pas mal dans des écoles aussi. Ce que je fais en général, c'est que j'explique aux jeunes, alors c'est parfois pas simple pour eux à intégrer, mais je leur explique l'écueil de la gratuité. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'il faut expliquer aux jeunes, et je pense que quand ils l'ont compris, ils comprennent mieux après l'outil qu'ils ont entre les mains. Tout ce qui leur est offert, en fait, gratuitement, hein, les réseaux sociaux, le moteur de recherche, voilà, tout ce qui est en accès libre depuis des années maintenant, en fait, il faut savoir que derrière, il y a une collecte de data. Et en gros, ce qu'il faut expliquer, parce que ça modifie quand même pas mal la perception de l'outil, puis ça le met en perspective par rapport à justement, il est facile à utiliser, c'est sympa, c'est ludique, on peut envoyer des messages, souvent des messages cachés, mais il y a aussi cette idée derrière qui consiste à collecter un maximum de data, une data qui va nourrir de l'intelligence artificielle, qui va être collectée par ces espèces d'énormes boîtes qui s'appellent les GAFAM d'un côté ou les BATX de l'autre, et qui demain vont leur permettre de revendre, c'est pas demain d'ailleurs, c'est aujourd'hui, vont leur permettre de vendre des services, de vendre de la data à des gens qui vont l'acheter et l'utiliser. Donc en gros, quand vous placez finalement le débat autour du business model et de l'entreprise, c'est-à-dire que aussi ludique soit-il, le mobile qui va être offert aujourd'hui à Noël, c'est effectivement une porte d'accès à plein de choses. Ce que je dis souvent, c'est une forme de baguette magique tellement on a le sentiment d'avoir du pouvoir au travers de cet outil, mais il faut jamais perdre de vue que les gens qui sont derrière, les gens qui fabriquent ces outils, viennent collecter de la data. Donc l'outil est offert, les softs qui sont à l'intérieur de cet outil semblent être offerts et gratuits, mais en fait non, il n'y a rien de gratuit. Et en fait, il y a une espèce de quelque part de dévoiement dans l'usage d'Internet aujourd'hui, dans l'usage du web, qu'il faut impérativement, je trouve, communiquer aux jeunes, même quand ils sont tout petits. Je pense que, alors moi je suis peut-être dur, hein, mais le portable à la maison, c'est pas avant l'entrée en seconde. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà.
Je vous confirme que vous n'êtes pas majoritaire, en effet.
Non, je suis pas majoritaire, mais. En même temps, bon, c'est dur, hein, ça a été dur de tenir, mais voilà. Donc, je pense qu'il faut expliquer surtout comment ça fonctionne. Et je trouve qu'on le fait pas assez. C'est-à-dire qu'on parle des dérives, mais on n'explique pas assez comment fonctionnent ces outils, qui sont les gens qui sont derrière, pourquoi ils font ça, pourquoi ils rendent ces outils si magiques, et pourquoi il faut s'en méfier. Et du coup, ça change quand même pas mal la façon d'aborder l'outil et son usage.
Vincent Maillet, Grégoire Pouget, Alexandre Archambault, vous restez avec nous, messieurs, on a encore une demi-heure pour débattre de ce sujet passionnant, et puis vous entendrez un témoignage terrible qui illustre bien notre propos dans quelques instants sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Jean-François Pérès.
Et la suite du Club des Idées à bientôt 19h31, toujours avec nos trois invités, Vincent Maillet, Grégoire Pouget et Alexandre Archambault. On parle bien sûr du numérique et de comment le maîtriser, comment le contrôler, comment éviter de faire en sorte de se retrouver menacé, insulté, harcelé. Justement, messieurs, à ce sujet, je voulais vous faire écouter ce témoignage terrible. C'était en 2018 sur l'antenne d'Europe 1. L'actrice Marion Seclin nous racontait ce qu'on peut appeler vraiment son calvaire numérique.
Ça a commencé sur les réseaux sociaux de toutes parts, avec des menaces de mort, des menaces de viol et des insultes. Ça a duré de manière extrêmement fréquente pendant à peu près un an et demi. J'ai arrêté de compter, moi, les menaces de mort, de viol et les insultes à peu près 40 000.
40 000 menaces pour Marion Seclin, c'est un chiffre qui donne le vertige. Alors, je ne sais pas ce que vous en penserez, Alexandre Archambault, mais en tout cas, nous, 40 000 personnes quand même, ça paraît incroyable, ça donne le vertige.
Oui, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que, vu de la part de ceux qui profèrent ce genre d'insultes, on a l'impression que ce n'est pas grave. L'exemple de Marion Seclin, et d'autres, hein, parce que Marion Seclin a très bien su surmonter tout ça, et effectivement intervient régulièrement maintenant en soutien, mais montre que les conséquences sont dévastatrices, parce que vous avez un effet d'entraînement, vous avez un effet qui démultiplie, et donc effectivement, lorsque vous êtes la cible d'un raid, toutes les demi-secondes, vous recevez des notifications et c'est terrible, surtout lorsque vous êtes enfant, où là, ça joue véritablement sur le psychisme. Je dis pas que sur un adulte, ce n'est pas grave, mais et c'est d'ailleurs pour ça que le droit, effectivement, sanctionne plus durement le cyberharcèlement lorsque ça concerne des mineurs. Donc voilà, c'est véritablement, c'est quelque chose qui est délétère, qui est dévastateur, et non, ce n'est pas grave du tout. Non, il faut pas dire que ce n'est pas grave, au contraire.
Oui, bien sûr, c'est très grave. D'un autre côté, vous disiez, elle a réussi à s'en sortir, à surmonter tout ça. Ça veut dire peut-être aussi, Grégoire Pouget, qu'il faut relativiser malgré tout. Ce n'est que de la bêtise ou sinon, on tombe dans une espèce de dépression terrible.
Ah non, il faut pas relativiser. Le harcèlement en ligne peut faire au moins autant de mal que le harcèlement dans la vie physique. La seule chose, faut bien comprendre que c'est différent, que c'est un phénomène qui est plus nouveau, donc c'est pour ça qu'on a du mal à l'appréhender et à mettre en œuvre des solutions, mais on peut, sinon s'en prémunir, au moins s'en protéger. Il y a beaucoup de bons réflexes à adopter quand on est victime de harcèlement en ligne. C'est notamment, par exemple, arrêter de regarder ses notifications. Alors ça, c'est très dur,
difficile,
parce
ça, hein,
que exactement, c'est le principe qui a fait le succès des réseaux sociaux. Quand on est sur Facebook, sur Twitter, sur Insta ou autre, on a envie de savoir si on a des notifications. Ça crée une sensation de plaisir, un coup de dopamine, on a envie de voir ça. Et ben, il faut réussir à passer au-delà de ça. Et comme encore une fois, c'est nouveau, on n'a pas l'habitude. On n'a pas le premier réflexe. Le premier réflexe quand on est victime de harcèlement, c'est mais qu'est-ce qu'on a encore dit sur moi ? Eh bien, dans ce cas-là, il faut se faire aider, parce que nous, on n'a pas forcément l'esprit assez clair pour le faire. Et les conseils qu'on donne dans des ateliers, nous, on travaille beaucoup avec des journalistes aussi qui ont été harcelés, ou des militants et des activistes qui ont ce genre de soucis. Le premier conseil, c'est de se faire aider, c'est de donner la main à son compte à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de confiance qui va pendant un temps gérer ça. Faut se déconnecter. Après, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Faut pas hésiter à pourquoi pas désinstaller l'application, parce que la différence entre le harcèlement physique et le harcèlement numérique, c'est que le harcèlement numérique, il est dans votre poche. Vous avez tout le temps votre portable sur vous, et ça, à un moment donné, il faut réussir à s'en détacher. Il faut mettre en œuvre certaines techniques. On peut bloquer des listes, on peut rendre son compte privé le temps de laisser passer l'orage, et après, par contre, faut pas laisser ça impuni. Il faut absolument faire les démarches pour aller porter plainte, et notamment prendre des captures d'écran. Faut pas oublier, c'est très dur, mais faut pas oublier, faut prendre des captures d'écran, il faut faire des preuves pour ensuite aller porter une action en justice, parce que ce genre d'action ne doit pas rester impuni.
Vous donnez sans doute ce soir-là de bons conseils aux auditeurs d'Europe 1 qui pourraient être victimes de ce genre de méfaits. Vincent Maillet, est-ce que j'allais dire, le sentiment d'impunité, ce n'est pas la motivation numéro un aussi du déferlement de haine et de bêtises sur les réseaux sociaux, bien caché derrière son pseudo?
Oui, il y a un sentiment d'impunité, au début en tout cas, hein, peut-être pour certains, parce qu'ils sont chez eux, donc on a l'impression d'être loin, donc forcément ça peut donner le sentiment d'être préservé, mais j'en reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure. Je pense qu'il y a quand même deux réflexes. Hein, ce qui était dit précédemment est très juste. Hein, moi, je suis pas un juriste, donc je suis pas spécialiste du sujet, mais pour conseiller des clients dans ce domaine, ce qu'il faut souvent, c'est assez rapidement, en tout cas, ne pas remettre de l'essence ou de l'huile sur le feu. C'est-à-dire, je pense qu'il faut assez rapidement prendre du recul. C'est pour ça que les personnes qui peuvent nous écouter ce soir, hein, mais qui sont impliquées ou qui se retrouvent dans ce genre de problème, je pense qu'il faut leur expliquer qu'assez rapidement, il faut qu'elles se fassent aider, il faut qu'elles prennent du recul. Voilà, clairement, qu'elle fasse appel à des tiers qui vont gérer le compte ou pourquoi pas d'ailleurs fermer le compte pendant un temps donné, parce que je pense que la priorité dans ce cas de figure, c'est d'abord de se préserver. Et après, quand on est en mesure ou en capacité peut-être de gérer le problème, de revenir ou de voilà, d'être capable de l'affronter d'une façon différente, et puis surtout de, encore une fois, de laisser le temps de la justice et des gens compétents pour gérer le problème. Donc je pense qu'il faut surtout pas rester seul en face de ça. Comme dans toute problématique de harcèlement d'ailleurs, hein, faut pas rester seul et être capable de prendre du recul, ce qui est pas toujours simple, hein. C'est pour ça que je pense que les parents, quand on parle d'enfants d'ailleurs, et l'entourage quand on parle de gens plus âgés, je pense qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans très important, en capacité à dire. Parce que comme l'outil, effectivement, comme la personne avant moi le disait très justement, on l'a dans la poche, donc on reçoit et on voit les notifications en permanence. Donc finalement, c'est comme si on voyageait en permanence avec ces notifications et ces agressions. Donc c'est difficile de s'en détacher. Donc il faut accepter, on n'est pas capable de le faire seul, il faut accepter, encore une fois, de se détacher de l'outil d'une façon ou d'une autre, soit en fermant son compte momentanément, soit en faisant appel à des tiers. Mais c'est très important de le faire. Je pense que c'est important d'expliquer ça aux jeunes notamment, pour la suite.
Bien sûr. Alors, il y a l'éducation, en effet, l'importance d'avoir un milieu, un environnement sain pour arriver à se sortir d'un éventuel faux pas de ce genre. Il y a une jeune fille qui a eu beaucoup de difficultés à le vivre. Parlons quelques instants de l'affaire Mila, qui est encore dans toutes les mémoires, cette lycéenne qui avait qualifié l'islam de façon très vulgaire sur les réseaux sociaux et qui vit aujourd'hui presque cloîtrée dans le secret, on va dire. Écoutez les propositions qu'avait faites Stéphane Nivet. Il est le délégué général de la LICRA.
Il faut absolument mettre à portée de justice les gens qui profèrent ce type de menaces et de contenu, mais j'allais dire dans l'heure, c'est-à-dire que les gens doivent être identifiés, il faut que la justice soit ferme et garantisse à Mila une vie sereine, libre, en dehors de ces tombereaux de menaces qui s'abattent sur elle sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'elle s'exprime. C'est pas possible.
Voilà deux questions pour ouvrir ce débat, Alexandre Archambault. Tout d'abord, est-ce possible de signaler en moins d'une heure à la justice des dérapages ou des menaces sur le numérique ?
Oui, et c'est même possible d'identifier en moins d'une minute.
Ah bah très bien, comment fait-on ?
Simplement, c'est que dans ce pays, en France, qui est un des pays fondateurs de l'Union européenne, qui est le parangon des libertés publiques, qui explique les droits de l'homme à toute la terre entière, nous sommes le pays le plus avancé qui consacre le moins ramené à l'habitant à sa justice. Donc concrètement, voici ce que ça donne. Ça donne effectivement le développement d'un sentiment d'impunité, puisque face à ces tombeaux de haine, la justice n'a pas les moyens pour réagir, pour être à la hauteur de l'enjeu. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que nous avons effectivement des victimes avec des conséquences qui sont dévastatrices. Par exemple, regardez Mila qui vit cloîtrée, et dans lequel, effectivement, la justice est impuissante, faute de moyens, parce que nous avons un législateur qui consacre, pour 1 000 euros d'argent public, vous avez 4 euros qui va à la justice. C'est le dernier rang des nations les plus industrialisées, et ça, c'est scandaleux.
Bon, c'est une vraie explication, évidemment. Grégoire Pouget, l'anonymat numérique, il n'est que numérique, finalement. On sait comment les retrouver, les délinquants, adresse IP de l'ordinateur, par exemple. On peut, si on s'en donne les moyens, évidemment, on retient ce qu'a dit Alexandre Archambault, on peut quand même frapper fort et vite.
Oui, je reprends les propos d'Archambault. La comparaison immédiate, bon, déjà, ça pose un problème pour les droits de la défense, mais ça, c'est autre chose. C'est avant tout une question de moyens. Et par ailleurs, l'anonymat sur Internet, il y a beaucoup de ces affaires ont beaucoup agité les sujets qui consistent à dire il faut absolument supprimer l'anonymat sur Internet. L'anonymat sur Internet est très compliqué à obtenir. Aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Les gens qui sont sur Twitter, sur Facebook, sur n'importe quel réseau social, même s'ils ne publient pas des choses sous leur vrai nom, il y a tout un tas d'identifiants qu'on appelle des identifiants techniques. En effet, leur adresse IP, mais pas uniquement, il y en a beaucoup d'autres, que la justice peut aller demander à l'intermédiaire technique. Facebook sait qui est derrière un compte, Twitter sait qui est derrière un compte, TikTok de même, Instagram de même. Donc la fin de l'anonymat sur Internet, pour moi, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un débat. De toute façon, nous ne sommes pas anonymes sur Internet, c'est très compliqué d'être anonyme sur Internet. Par contre, le pseudonymat, le fait de pouvoir s'exprimer sous un autre nom que notre nom de naissance, ça, c'est capital. Il faut pouvoir le conserver parce que ça permet à des gens de pouvoir s'exprimer. Moi, par exemple, si mon employeur, si j'ai envie de dire quelque chose et qui potentiellement peut froisser mon employeur, j'ai besoin de pouvoir le faire sous un pseudo et de manière non identifiée. Mais ça ne veut pas dire que si je dis quelque chose qui est hors du cadre de la loi, que je ne vais pas pouvoir être sanctionné. Bien au contraire, aujourd'hui, tout est en place pour faire ça. Le seul vrai sujet, ce sont les moyens alloués à la justice qui sont en effet beaucoup, beaucoup trop faibles.
Bon, on est à peu près tous d'accord pour faire ce constat ce soir. Vous parlez également de régulation. C'est sûr que y a deux écoles, on va dire, l'école libérale, et vous en parliez, hein, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir malgré tout continuer à s'exprimer librement, même si il faut mettre un cadre à tout ça. Après, le problème, c'est les patrons des GAFA et ceux qui détiennent les réseaux de communication. Ces patrons le souhaitent-ils vraiment? Écoutez ce témoignage édifiant de Mark Zuckerberg, le très puissant, évidemment, PDG de Facebook. Il s'exprimait devant les autorités américaines.
L'Internet est en train de prendre de plus en plus d'importance dans la vie des gens à travers le monde. Et je pense qu'il est inévitable qu'il y ait de la régulation. Donc ma position, ce n'est pas qu'il ne devrait pas y avoir de régulation, mais je pense qu'il faut être prudent sur le type de régulation. Ça met en place des règles qu'une grande entreprise avec des ressources comme la nôtre peut plus facilement respecter. Mais ça peut être plus difficile pour une petite start-up. Donc on doit réfléchir avec beaucoup d'attention si on veut mettre en place ces règles.
Voilà les propos très tièdes, hein, j'allais dire, de Mark Zuckerberg sur la régulation de son réseau Facebook. On rappelle que Mark Zuckerberg, c'est également WhatsApp ou encore Instagram. Donc ça veut dire qu'il a potentiellement les données, il entend et il voit ce que des milliers, des milliards même de gens font tous les jours. Vincent Maillet, comment interpréter les propos de Mark Zuckerberg? Est-ce un manque de bonne volonté, parce que ça ne l'arrange pas dans son business, j'allais dire, ou est-ce une philosophie libérale qui est poussée à l'extrême?
Je pense que ça ne l'arrange pas dans son business, objectivement, pour une raison assez simple, hein, c'est que souvent, enfin, les exemples qu'on a donnés aujourd'hui, précédemment, en fait, hein, des personnes qui ont subi les foudres d'internautes et voilà, ça se passe en général sur les réseaux sociaux de Mark Zuckerberg, donc je pense pas que ça l'arrange, au contraire, je pense que ça le dessert fortement. Après, la difficulté, c'est le nombre, c'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui pour un site qui fonctionne plutôt sur des algorithmes, hein, c'est-à-dire qu'en fait il y a une machine derrière qui, en fonction de ce que vous regardez, le temps que vous passez à scroller, en fait, donc ça, à regarder toutes ces images, toutes ces vidéos, celles sur lesquelles vous vous arrêtez, celles sur lesquelles vous passez plus ou moins rapidement, etc., etc. Tout ça est analysé par la machine et en fait permet à la machine de vous renvoyer après, donc à l'ordinateur, de vous renvoyer après des images et des vidéos qui vous correspondent de plus en plus. Donc l'idée, c'est d'envoyer systématiquement et de façon de plus en plus fine des vidéos, des images qui correspondent à vos goûts, à ce qui pourrait vous plaire ou à ce qui vous plaît. D'accord. Donc la difficulté de Mark Zuckerberg, c'est qu'à partir du moment où vous avez des gens qui commencent à envoyer des choses nauséabondes, hein, extrêmement délicates et désagréables, voire injurieuses, à partir du moment où ces gens font ça, c'est assez compliqué de les repérer. est assez difficile de les repérer. Donc en fait, assez rapidement, ce qui se passe, c'est que vous avez des modérateurs, ce qu'on appelle des modérateurs, c'est-à-dire que des gens qui sont derrière, des vrais gens qui sont derrière l'ordinateur et qui commencent à essayer de repérer ce type de dérive et de comportement. Donc si Mark Zuckerberg en fait commence à avoir mettre en place des règles extrêmement strictes, extrêmement compliquées, c'est un peu ce vers quoi on va au niveau européen, hein, puisque Thierry Breton derrière ce qu'on appelle je crois que c'est la DSA, hein, la Digital Service Act. En fait, il y a un peu cette idée de mettre les réseaux sociaux et notamment les grandes plateformes comme Facebook devant leurs responsabilités en les obligeant à mettre en place un certain nombre de règles et de modérations pour arriver à gérer ça. Mais tout ça aura un coût et si on veut vraiment bien faire les choses, il va falloir mettre beaucoup de gens derrière des ordinateurs pour jouer les modérateurs, ce qui est pas simple dans le cas de Facebook, vu le nombre de gens qu'il y a aujourd'hui sur ces réseaux sociaux.
Grégoire Pouget, je rappelle que vous êtes le président et cofondateur de l'association Nothing to Hide, Rien à cacher, qui lutte pour la protection de l'information. Est-ce que vous vous sentez parfois un petit peu seul au milieu de tout ça?
Seul, non, pas du tout, parce qu'en fait, nous, on n'a pas pour ambition de détruire Facebook, Google, les GAFAM. C'est pas du tout notre enjeu. De toute façon, même si on voulait, on n'y arriverait pas seul. Donc, on se sent pas seul. Nous, ce qu'on veut faire, c'est expliquer, comme l'un des intervenants l'a dit tout à l'heure, quel est le marché que Facebook passe avec vous, ou que Twitter, ou que Insta passe avec vous. On veut expliquer la logique de ces acteurs qui sont des acteurs ultra dominants, qui exploitent les données personnelles de leurs utilisateurs en leur fournissant un service gratuit. Nous, on n'est pas des parangons de la morale. On veut juste expliquer et faire en sorte que les gens soient au courant de ce contrat-là. Et on veut aussi, ce qu'on fait, nous, dans notre association, c'est qu'on propose des alternatives. On dit, bon, voilà, ça, c'est le modèle automatique économique des GAFAM. On peut vous proposer autre chose. Il y a d'autres façons de faire, d'autres outils de communication, et spécialement des outils qui sont sécurisés, parce que par ailleurs, si vous WhatsApp, qui appartient à Facebook, a énormément d'informations sur qui vous appelez, quand, à quelle heure, combien de temps. Et on pense que ça, ce sont des choses qui sont un problème et qui sont attentatoires à la vie privée des gens. On propose des alternatives. Donc non, on ne se sent pas vraiment seul. On est avec tout le monde, puisqu'on n'est pas juste contre, on essaye d'éduquer sur ces sujets-là.
Alors vous disiez tout à l'heure, on n'est pas là pour démanteler les géants, de toute façon c'est trop difficile, sans doute, mais écoutez tout de même le témoignage de Chris Hughes, c'est l'un des fondateurs de Facebook. Eh bien, il ne reconnaît pas son bébé et il le racontait au micro européen de notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon.
Comme Mark Zuckerberg, Chris Hughes a gardé son visage juvénile, celui que l'on voit sur les photos de leur époque à Harvard il y a 15 ans. Ils partageaient le même dortoir étudiant et la même vision pour créer Facebook. Mais aujourd'hui, tout a changé.
I'm angry at Mark. It's time to break up Facebook.
Voilà, il est temps de démanteler Facebook. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Chris Hughes, fondateur du réseau. Que faut-il en penser? Qui sourit? Qui a envie de parler? Est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est un simple règlement de compte entre anciens amis?
Moi, j'ai envie de dire, oui, effectivement, c'est un peu un règlement de compte. Et c'est vrai que oui, clairement, oui, ces plateformes ont atteint un niveau, un pouvoir de marché qui est estimé, qui est structurel. Mais je pense que là-dessus, la bonne approche qu'on peut avoir, il faut se garder de la tentation de la réglementation nationale, puisque là-dessus, vous avez les GAFAM, ce sont des plateformes qui résonnent à l'échelle mondiale. Pour eux, il n'y a pas 150 000 marchés. Et que donc, si on commence à avoir une réponse régalienne et publique fractionnée, partir en ordre dispersé, ce n'est pas comme ça qu'on se fera respecter. Et je pense, comme on l'a fait, par exemple, sur les données personnelles, c'est l'échelon européen, où on dit, ben voilà, vous voulez, messieurs les GAFA, ou les, vous voulez intervenir sur un des premiers marchés solvables au monde, voici des règles à respecter. Et quand on discute un petit peu avec ces gens-là, ben ils sont pas véritablement contre. Je veux dire, sur le principe, ça passe. Après, effectivement, c'est sur les modalités d'application et ce que disent les GAFAM. Ce sont des entreprises qui ont bâti leur succès sur l'efficacité, sur le 21e siècle. Donc, dit autrement, si on veut réguler avec les méthodes du 20e siècle, avec une approche bien jacobine, et 40 000 coups de tampon, comme on sait si bien le faire en France, ça ne marchera jamais. Le meilleur exemple, vous avez un ministre français qui se déplace dans la Silicon Valley, personne descend pour venir le voir, le saluer. Vous avez Xavier Niel ou Stéphane Richard qui y va, tout le monde arrête illico ses rendez-vous pour venir les saluer. Ça veut tout dire.
Voilà un exemple en effet frappant. Alors, pour se défendre, messieurs, le meilleur bouclier des GAFA, le plus cynique aussi, on peut dire, c'est l'économie. Vous l'évoquiez, hein, et ce possible chantage aux impôts et à l'emploi dans les pays dans lesquels ils se trouvent. Il y a quelques semaines, sur Europe 1, le député Mathieu Orphelin dénonçait le scandale Amazon en matière fiscale.
Amazon ne respecte aucune des règles qui s'imposent au petit commerce. Par exemple, Amazon ne paye pas d'impôts sur les sociétés en France. Amazon organise un système de fraude fiscale à l'impôt sur les sociétés. Cette injustice fiscale fait qu'Amazon, évidemment, au final, est toujours le moins cher.
Voilà, Vincent Maillet, je rappelle que vous êtes le fondateur et le directeur général d'Avas Commerce, auteur du livre Amazon, main basse sur le futur. Quand vous entendez Mathieu Orphelin, comment réagissez-vous ?
Alors, c'est comment dire ? Alors, bien entendu, c'est vrai, hein, c'est-à-dire que, mais c'est vrai pour une raison qui est assez simple, hein, c'est qu'aujourd'hui Amazon n'est pas rentable en France. Donc après, on peut dire qu'ils utilisent des systèmes et une ingénierie financière qui leur permettent, fiscale notamment, qui leur permettent sans doute de réduire encore plus la voilure et d'éviter l'impôt. Ça c'est sans doute possible, mais voilà, c'est le débat qu'on a régulièrement sur Amazon et sur la différence entre le petit commerce et Amazon. Oui, après, comment vous dire ?
Je vous écoute. On a encore quelques secondes, hélas.
Mais en fait, ce qui est important, pouvoir le déployer, mais ce qui est important quand même, c'est Amazon. Vous tuez Amazon demain, il y a un grand nombre de sociétés, je ne vais pas les citer là, qui vont remplacer. Donc en fait, il ne faut pas essayer de tuer le messager. C'est Emmanuel Macron qui disait dans une interview que j'ai vue il n'y a pas longtemps, il disait en gros, les Américains ont les GAFAM, la Chine a les BATX et l'Europe a RGPD. Donc je pense que la solution, elle est pas tellement dans l'administration ou dans voilà, elle est dans comment on fait émerger nous en Europe des géants et des entreprises qui sont capables d'aller matcher et d'aller se battre contre Facebook, contre Google, contre Amazon ou contre AliExpress par exemple en Chine. Je pense que le vrai problème en gros il est là et il faut pas se cacher. On a un vrai souci en Europe. On a un vrai souci en France. La prochaine bataille des 10 prochaines années, ce sera une bataille de data et une bataille d'intelligence artificielle. Le carburant de l'intelligence artificielle, ce sont les data. Et les pays aujourd'hui qui sont les mieux armés pour collecter la data. Oui, pardon, désolé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un faux problème parce que je ne minore pas la détresse des petits commerçants, certainement pas. J'ai plein d'amis, moi, qui sont commerçants et qui ont souffert pendant la pandémie, qui ont souffert pendant le confinement. Je ne minore pas ça. Je dis juste que le sens de l'histoire, de toute façon, c'est le e-commerce. Et le sens de l'histoire, ce sera la data et la collecte de data.
Le message est passé, Vincent Maillet. Hélas, on a plus le temps. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre Amazon main basse sur le futur, édition Robert Laffont. Merci également à Grégoire Pouget, le président et le cofondateur de l'association Nothing to Hide, et à Alexandre Archambault, avocat spécialiste des questions numériques. Merci à vous, messieurs, et excellent réveillon à tous.
Europe 1, Jean-François Pérès.